Chapitre 6. 19 juillet. Veux-tu que je te dise un conte exquis à nul autre semblable? Il était une fois un souverain qui avait le don de prendre les formes les plus diverses, de chanter le même air mélodieux, qu'il fût fleur parfumée, brise légère ou tempête foudroyante. En quelque endroit que l'on allât, il trouvait le moyen de vous suivre pas à pas et, se glissant dans un brin d'herbe, de dire sa folle chanson. Si on s'asseyait sous un arbre, les feuilles n'étaient plus feuilles, et leur bruissement était sa voix, et sa voix, sans qu'on sût comment, résonnait dans l'atmosphère qui devenait lui tout entier. Je connais certains prieurés où ce monarque entreprenant se cachait dans les moindres recoins que toutes les vieilles pierres connaissaient et qui, un jour enfin, parlant par la voix humaine, se nomma ouvertement. Il appela son royaume l'univers et sa chanson l'amour. C'était hier soir. Dans la journée, nous avions reçu deux visites, et les visites, ici, se passent généralement de façon singulière, parce que, si on parle des événements publics, nous avons toujours l'air de revenir du fond des savanes, étant invariablement en retard de 8 jours dans nos informations, car grand-mère ne reçoit qu'un journal départemental qui paraît chaque semaine. De sorte que, si la politesse ne les retenait pas, nos visiteurs à chaque instant s'écrieraient « Mais madame, Henri IV est mort !» Ensuite, madame de Lignes, qui aime la discussion, se jette sur l'occasion qui se présente avec l'empressement d'un gourmet sur des denrées rares. À tout hasard, elle livre aux espaces une idée quelconque et, bon gré mal gré, il faut que le gant soit relevé et que la lutte s'engage. Mais hier, au début, la conversation tomba sur les chétiniers. Nos visiteurs éprouvaient le besoin de leur appliquer quelques bons coups de bâton en signe d'amitié. Tu as dû remarquer bien des fois que les coups de bâton étaient la caractéristique des plus vives amitiés. Ce sont des hommes charmants, dit madame M. On les voit trop rarement. Ils sont un peu excentriques. On se demande pourquoi ils vivent ainsi en loup. Ils sont si pauvres, il est vrai. Pauvres gens, que peuvent-ils faire ainsi enterrés dans leurs ruines? Mais ils ne m'ont point l'air à se plaindre, dis-je en réprimant une bouffée de colère. Ils lisent et travaillent beaucoup, répondit madame de Lignes. C'est un peu pose, je crois, répliqua le fils de madame M. Hervé, que j'aime beaucoup, n'avait rien d'un travailleur au collège. Il était comme les autres, ni plus ni moins. On dit que les relations de son père lui ont beaucoup servi. Ma patience n'est pas et ne sera jamais angélique, c'est positif, et devant l'injustice, ou quand on attaque mes amis, mon esprit éprouve le même frémissement que mes doigts qui aimeraient à cravacher quelqu'un. Certains hommes se transforment heureusement, répliquai-je d'un ton vif, tandis que beaucoup s'arrêtent à une première station et n'en bougent plus. J'aime mieux les premiers. Oh, je ne l'attaque pas, mademoiselle. C'est mon ami et un bien bon garçon. Mais je le trouve un peu poseur. Parce que c'est un homme distingué? Demandai-je ironiquement. Je l'engagerai, en tout cas, à faire la célèbre prière. Oh, Dieu, laissez-moi mes ennemis et sauvez-moi de mes amis. Le diable lui-même s'en fut mêlé qu'il ne put m'empêcher de lancer ma réponse dans l'impertinence jointe à la vivacité du ton donna l'éveil à madame de Lignes, pendant qu'un sourire discret qui effleura les lèvres de mes adversaires, je m'aperçus qu'on m'avait tendu un piège et que, tête baissée, j'étais tombée dedans. Ma cousine changea vivement la conversation en parlant des récoltes. « Connais-tu une race plus désagréable que celle des propriétaires ? On dirait une légion de Prométhée dévorée par un éternel vautour, et ils ne posséderaient rien du tout que leur lamentation ne serait pas plus lugubre. Au milieu de la conversation, Hervé est entré, le regard soucieux et même un peu triste, pour moi du moins qui le connais bien. Avec une politesse un peu surannée qui vient de son père, il s'est moqué agréablement des désespoirs qui l'entouraient, puis, à quelques questions qui lui furent posées sur ses voyages, le niveau de la conversation s'éleva promptement. Bien qu'il ne soit pas très causeur, il prend toujours part à la conversation avec beaucoup de bonne grâce, et la banalité à sa voix se sauve à toutes jambes. En voyant hier cet effet se produire immédiatement, j'ai compris la critique qui avait précédé son entrée. La médiocrité, comme tu le sais, n'aimant que sa propre personne. Je ne sais pas si l'intelligence d'Hervé est supérieure, mais il a une instruction étendue qui est lettre morte pour nos bons voisins. Vivant autour de leur unique journal et de leur marmite, ils croient avec fermeté que marmite et journal sont le dernier mot de la création. Après avoir roulé avec quelque impétuosité sur la question de sentiment, la discussion aborda le terrain des bouleversements sociaux, et je croyais que nous n'en verrions jamais la fin, quand ma cousine, qui se recueillait depuis un moment, pour frapper un grand coup, s'écria « Du reste, Dieu seul est grand. Si Massillon ne l'avait pas dit, eh bien moi, je l'aurais dit. » Cette pensée nouvelle, tombant au milieu de nous, avec l'à-propos d'une bombe dans une réunion de paisibles villageois, servit l'impatience où j'étais d'assister à la disparition de nos visiteurs, qui se levèrent comme si l'accord final était donné. Il était tard, et je regardais avec désolation la pendule, en songeant qu'Hervé allait partir, sans que je puisse sonder délicatement le motif de sa préoccupation. Mais voilà que grand-mère eut la bienheureuse inspiration de le retenir à dîner. Malheureusement, Madame de Ligne, dérogeant à ses habitudes, ne nous quitta pas, car ma fougue, en défendant les chétiniers, l'avait inquiétée. Toutefois, elle se rassura devant l'air distrait d'Hervé et la façon placide dont je dévorais à belles dents mon dîner. Il était nuit lorsqu'Hervé, qui s'était promené avec nous sans que je puisse lui parler, songea à nous quitter. « Adieu, » dis-je brusquement, car j'étais furieuse. « Après cela, je vais vous conduire jusqu'à la grande cour, » ajoutai-je en me ravisant. « Je vous accompagne, mes enfants, » dit grand-mère. Ainsi tranquillisée, Madame de Ligne s'enfonça dans le bois afin d'arracher au clair de lune tous ses secrets. Quant à nous, nous n'avions pas fait 10 pas que grand-mère s'en allait de son côté sans plus songer à notre existence. En approchant de la maison, je montrai à Hervé une assez vive lumière dans le cœur de l'église. « Des pèlerinages ont passé par là, » dis-je. « Allons voir s'il n'y a aucun danger pour le feu. » 3 bonnes femmes, en effet, étaient venues dans la soirée faire un voyage, selon l'expression du pays, et des bouts de bougies qu'elles étaient allées demander à la cuisine achevaient de brûler. L'une d'elles avait mis un cierge qui éclairait 5 coqueluchons du haut en bas, et l'expression extatique du saint, au milieu des ombres portées très fortes, paraissait étrangement suppliante. Des rayons lunaires pénétraient dans la chapelle, mais sans éclairer la longue nef où se distinguait vaguement un moulin pour le blé, des échelles, de vieux pupitres qui servaient autrefois au lutrin et la provision de bois de la maison. Nous montâmes 5 marches à peu près intactes pour nous approcher de l'autel. Il y a dans l'église un courant d'air perpétuel et il n'est pas besoin d'un vent bien vif pour l'entendre soupirer. La moindre brise qui passe rompt le silence de ces grandes murailles et les lianes de lierre qui entourent la Vierge décapitée battent comme des ailes d'oiseaux. Oubliant que je voulais questionner Hervé, je restais immobile, sans songer à parler. J'écoutais, dans le silence recueilli de ces ruines, le frémissement des clématites accrochées aux ogives des fenêtres et l'air très faible qui courait par instants dans le vaisseau. C'était comme la plainte très douce d'un passé oublié qui nous conviait nous-mêmes à l'oubli éternel quand l'heure serait venue, et, tout ému du mystère dont l'influence m'enveloppait, je me tournai vers Hervé pour lui exprimer mes impressions. En le regardant, ma respiration devint plus courte et mon cœur battit comme un fou. Ses yeux étaient parlants, et à peine avais-je eu le temps de penser qu'il allait enfin prononcer des mots décisifs, que, penché vers moi, il me disait, comme autrefois dans mon enfance, « Claude, m'aimes-tu ? Et des débris de saints, des sculptures Louis XV mutilées, de la haute voûte lézardée, des rayons d'une certaine lumière, j'entendis « M'aimes-tu ? » Une voix, comme un souffle, répondit « Oui » et glissa dans le silence de l'église, mais pas plus rapidement que l'ombre qui suivait ma fuite précipitée après l'aveu franc et spontané de mon âme. Hervé me rejoignit au milieu de la nef. Il passa son bras sous le mien, m'entraînant en arrière, me fit remonter les marches du chœur, et, se tenant en face de moi, me dit d'une voix tremblante « Claude, ma chère Claude !» Et, comme si les mots lui manquaient pour s'exprimer, il répétait indéfiniment mon nom, qui me parut avoir une éloquence qu'assurément je ne lui soupçonnais pas. « Vous avez dit oui, Claude ?»« Oui encore !» dis-je en portant mes mains à mon visage brûlant. « Je ne sais guère déguiser la vérité, Hervé, et celle-là, vous la connaissiez certainement. » J'y croyais souvent, et souvent aussi, je n'y croyais plus. « Alors, vous étiez un peu stupide. » Nous nous mîmes à rire, puis il me serait impossible de te narrer ce que nous avons dit. « Mais Dieu, que je la trouvais jolie, cette forme définitive de la chanson que, depuis longtemps, j'entendais chanter autour de moi. » Combien de temps avons-nous causé ainsi? Avons-nous même parlé? Je n'en sais rien. Mais Hervé s'avisa soudainement de troubler notre quiétude. « Ma pauvre Claude, me dit-il, vous acceptez une vie bien monotone et bien modeste. C'est à peine si mon père et moi avons 5 000 francs de revenus, et force nous sera de vivre à Chétigné pour arriver à vivre. » Ainsi rappelé à la vérité, je me frappai le front avec désespoir. « Grand Dieu ! M'écriai-je, et les 15 000 francs de rente de ma cousine ?»« Comment les 15 000 francs de rente ?»« Oui, oui, Madame de Ligne s'est mise en tête que j'épouse 15 000 francs de rente, pas un sou de moins. » Sous prétexte que le suprême bonheur étant d'avoir 30 000 francs à dépasser par an, je dois au moins posséder la moitié du bonheur suprême. L'écart est énorme, me dit-il en laissant tomber ma main d'un air consterné. Je savais qu'elle eût voulu pour vous une position plus brillante que la mienne, mais je ne connaissais pas toutes ses ambitions. Néanmoins, sans l'entraînement de ce soir, Claude, je crois que j'aurais attendu longtemps encore avant de me déclarer. Vous auriez fait une bêtise, m'écriai-je, parce que moi, je n'ai pas du tout les idées de ma famille. Oui, mais vous dépendez de sa volonté. Il avait raison, et ma détresse était plus grande que je ne la voulais montrer. Je levai les yeux vers 5 Coqueluchons, qui, à la lueur des bougies mourantes, suppliaient certainement le ciel de nous accorder ses bénédictions. Ne nous désespérons pas, Hervé, dis-je, et si vous voulez, établissons tout de suite notre budget, afin d'opposer un démenti formel au prince de ma cousine, quand le moment sera venu de discuter, et de prouver mathématiquement que nous sommes des gens pratiques. Nous nous sommes assis sur les marches couvertes de poussière, de feuilles et de pétales de fleurs qui pénètrent tout l'été par les vitraux sans vitres. « Mais, dis-je avec quelque inquiétude, vous y connaissez-vous bien ?»« Pas beaucoup, me dit-il d'un air anxieux. C'est mon père qui dirige la maison, et comme lui, je n'attache pas grande importance aux choses extérieures, puisque je suis toujours plongé dans mes livres. Il est grand temps que j'aille mettre de l'ordre dans ce taudis, répliquai-je en riant. Et dire que je n'ai pas mieux à vous offrir, s'écria-t-il en s'agitant si bien que j'avalai force poussière. Vous m'offririez de vivre au fond d'une mine avec vous, que je serais heureuse, dis-je dans un élan étourdi. Étourdi est bien le mot, car ne connaissant pas les hommes, j'aurais dû être en défiance, d'autant qu'il n'est pas dans les usages reçus, je le savais bien, d'écouter et de dire de tendres paroles dans l'ombre d'une chapelle en ruine. À peine ma phrase se promenait-elle dans les airs, que cet imbécile me prenait dans ses bras et me donnait la plus chaude des accolades, ce qui me jeta dans un émoi où la colère et je ne sais quelle joie excessive se mêlaient si bien que je perdais la tête. « Je m'en vais !» criai-je, rouge de confusion, et sautant 3 marches à la fois. Il se jeta devant moi. « Non, non, ne partez pas, Claude, je vous en prie !» Je m'arrêtai, hésitante. « Vraiment, dis-je d'un ton sévère, si l'homme n'est qu'un misérable chiffon, il faut le dire tout de suite. » Mais je m'aperçus aussitôt que je n'avais pas le droit de parler, et que mon âme était passée, elle aussi, à l'état lamentable de chiffon, car, cédant aux supplications d'Hervé, je remontai les 5 degrés et allai m'appuyer avec dignité à l'autel. « Reprenons notre budget, Claude, me dit-il humblement. « C'est sage, parlons sérieusement, répondis-je avec gravité. Ainsi, vous avez cinq. Mais à propos, dites-moi d'abord pourquoi vous aviez l'air si triste dans la journée.
Parce que j'étais dans mes heures de doute, ma chère Claude, parce que je me demandais si vraiment vous m'aimiez et si j'oserais vous dire tout mon amour. Je crois vraiment que je vous aime depuis toujours.
J'allais répondre étourdiment, comme moi.
Mais me défiant désormais de l'eau qui dort, je me dirigeais prudemment vers les mathématiques.
5 000 francs et 1 500 que j'ai en dot, total 6 500. Mais c'est énorme!
J'ai peur que non.
Alors, que ne suis-je très riche pour que vous le deveniez? Dis-je piteusement.
Si vous étiez riche, Claude, je ne demanderais pas votre main.
Il est certain, repris-je en soupirant, qu'il y a harmonie. Si vos murs sont tombés, les nôtres sont sur le point d'en faire autant, et une fois par terre, je voudrais bien savoir qui les relèvera.
Bah, nous nous en tirerons parfaitement.
Et lui montrant 5 encluchons, j'ajoutai, si nous étions des saints comme lui, je suis sûr que nous n'aurions même pas besoin de 6 000 francs pour vivre satisfait.
Bon, me dit-il en frissonnant, s'il faut cela pour devenir un saint.
Oui, ce serait bien ennuyeux, dis-je avec conviction.
Au moment où je prononçais cette belle conclusion, le dernier bout de bougie expira, suivant en cela l'exemple du cierge qu'un coup de vent venait d'éteindre, et en même temps j'entendis ouvrir la porte double du salon qui communique avec la sacristie.
« On vient, » murmurai-je.
« C'est Madame de Lynes, sans doute. »
« Elle me cherche, ou bien en rentrant, elle a été inquiétée par les lumières. Sauvons-nous. »
Nous courûmes à la lourde porte qui ouvre sur la petite cour et nous nous échappâmes comme d'affreux coupables. Je reconduisis Hervé jusqu'à la barrière en disant précipitamment
« Demain, que votre père vienne faire la demande, et Dieu protège notre galère !»
Une seconde après, sans rencontrer personne, je volais à tâtons dans les escaliers aux voûtes basses et les grands corridors délabrés. Je me précipitai dans ma chambre, allumai une bougie, et un livre devant moi, j'attendis que les éventualités se produisissent.
L'horrible chose qu'une conscience troublait. Je pâlissais, rougissais, pâlissais de nouveau, et bien que je fusse en mesure d'affronter des explications sans me compromettre, je sentais qu'à la seule vue de Madame de Lynes, j'allais crier mon forfait.
Lorsque j'entendis son pas grave résonner sur les carreaux du corridor, mon âme fut livrée à toutes les furies, comme disaient jadis les héros de romans. Toutefois, ces bonnes femmes ne me firent pas crier, ciel et terre, très convaincue que je suis, d'ailleurs, qu'en maintes occurrences, le ciel et la terre sont affligés, l'un et l'autre, d'une surdité profonde.
Mais quand Madame de Lynes
parla à travers ma porte, j'ouvris 3 fois la bouche sans pouvoir prononcer un mot. Que les dieux me préservent des eaux troubles, car je ne suis pas faite pour elles, et je plains de toute mon âme les grands coupables.
Claude, es-tu là? Est-ce que tu dors, Claude?
C'est vous, madame, dis-je d'une voix enrouée.
Mais oui, c'est moi. Je me demandais si tu n'étais pas encore avec Hervé, ce qui eût été inconvenant, car ta grand-mère est montée, je crois.
Il est parti, répondis-je en reprenant un peu d'aplomb, et j'ai entendu grand-mère faire sa ronde habituelle, pour voir s'il n'y avait pas quelques voleurs cachés dans les armoires et les tiroirs de la commode.
Bien, moi j'arrive de l'église où j'avais aperçu de la lumière. C'était un cierge et des bouts de bougie que des pèlerins avaient laissés. Mais le tout est éteint maintenant.
Vraiment, c'est éteint? Criai-je.
Oui, il n'y a aucun danger pour le feu. Dors bien.
C'est ce que j'ai fait avec une tranquillité surprenante, malgré les troubles de ma conscience, et lorsque je me suis levé de bonne heure ce matin pour avoir le temps de t'écrire mon récit avant l'arrivée du facteur, j'ai découvert que la vie avait singulièrement embelli depuis hier. La grande bataille se livrera aujourd'hui, mais je suis calme. La vie, sans beaucoup de superflu, te paraît un désastre, et dans tes encouragements, je sens bien des réticences, ma chère amie. Il est certain que le fils du roi, quand il est allé chez les fées chercher l'aile de papillon et la goutte de rosée chères au poète, est mort d'inanition après avoir fait si plantureuse chair.
Mais nous, nous aurons le papillon tout entier et des coupes débordantes de rosée. Je suis une heureuse femme. Embrasse-moi et ne gâte rien par tes remontrances.